Invino BFM. Alain Marty sur BFM Business.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce numéro 603 d'Invino BFM. Notre émission est en public et délocalisée au Bar à Vin Restaurant Nicolas à Paris, place de la Madeleine, avec un menu qui prêche la consommation responsable et modérée. Le Brésil côté Bacchus, on en parlera, l'appellation Muscat de Frontignan cette saison. Le retour en grâce du vin en France, tant mieux. Le cépage Viognier pour le meilleur des Condrieux. La Géorgie version Grand Cru et comme chaque week-end, toute l'actualité mondiale des vins et spiritueux en compagnie de David Cobol, Vladimir Kaufmann, Jean-Robert Pitt, Alain Crozier et Philippe Forbach. Bonjour messieurs.
Bonjour
messieurs.
Bonjour.
Un plateau très féminin aujourd'hui. On l'a fait très fort quand même. Alors, bon cher Jean-Robert, dans l'agenda du vin, on part entre Chablis et Tonnerre. C'est une belle région. Hein.
Voilà, beaucoup de choses et une très belle région. Tout l'été, du 1er juillet au 31 août, les anciennes écuries du château de Béru, qui se trouve entre Tonnerre et Chablis, se transforme chaque week-end en bar éphémère. Donc, on peut y déguster les vins du domaine, ainsi que ceux d'amis vignerons, tous orientés vers la biodynamie. Vous pouvez profiter des formules dégustation pour découvrir la diversité des terroirs de Béru et déguster plusieurs millésimes en fonction de la formule choisie. Les soirées seront ponctuées de concerts de jazz, soul ou musique classique tout au long de l'été. Pour vos réservations et plus d'informations, château de Béru en un seul mot.com.
David Cobold.
D'abord, château de Béru, c'est un très bel endroit. Les vins sont magnifiques, biodynamie ou pas. mais un mot quand même pour les gens de Chablis, puisque Chablis a été très très durement touché cette année par gel et grêle, ça fait beaucoup.
Double peine.
C'est donc c'est sympathie pour les vignerons.
Ouais, c'est une deuxième bonne raison d'y aller.
Et les gens de Chablis, mais sans oublier autour, parce que Saint-Brie, par exemple, était particulièrement touché.
Oui, puis j'étais dans le Beaujolais la semaine dernière, j'ai vu l'état des vignes en sortant de Villiers-Morgon, en montant sur Chiroube. Il y a une feuille, deux feuilles, trois feuilles sur les vignes en juin.
On en parlera la semaine prochaine avec un invité du Beaujolais, mais effectivement, c'est dramatique. Il faut une pensée pour eux parce qu'il n'y a pas de matière, ça fait mal au cœur. Et c'est pas évident que l'année suivante, tout aille bien d'ailleurs.
Et hein, ça réduit la récolte aussi pour l'année suivante.
Jean-Robert Pitt, on reste sur les choses joyeuses. Bordeaux, qu'est-ce qui se passe?
Alors, prochain dîner du Wine and Business Club de Bordeaux qui se déroule le 5 juillet dans un restaurant qui appartient à une grande famille de vignerons du Médoc, le Chapon Fin, au menu économie, gastronomie et grand cru. Plus d'informations sur winebusinessclub.com.
Enfin, pour terminer, l'Alsace, une belle région que vous appréciez, Jean-Robert.
Oui, et où va se dérouler une grande compétition œnologique au début juillet. Mais là, c'est tous les mercredis, du 6 juillet au 31 août. Profitez d'une visite guidée du sentier de Westalten, en Alsace, et de sa flore remarquable. C'est l'occasion de découvrir de la viticulture en présence d'un des vignerons du village qui vous expliquera les particularités de chaque cépage et de la culture de la vigne alsacienne et qui vous conviera ensuite à une dégustation dans sa cave. Plus d'informations sur tourisme-alsace.com.
Merci beaucoup Jean-Robert Pitt. Philippe Forbach, vous qui êtes notamment meilleur sommelier du monde, un commentaire sur le millésime 1972.
Il a fait froid, c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'était très tardif. Hein. C'est une année particulièrement difficile. Les vendanges ont débuté quasiment, on va autour du 10 octobre dans toute la région française, qui est tard. Globalement, dans le Bordelais, c'était pas terrible. Les vins sont minces, souvent un petit peu herbacés. Ils ont été agréables pour certains jusqu'au début des années 80. En Bourgogne, il m'est arrivé de goûter pour 72 de très jolis vins. Et donc, peut-être que si vous tombez sur la belle bouteille, vous pouvez encore vous faire
blanc,
plaisir.
Rouge, Philippe.
Plutôt en rouge. Moi, j'ai des souvenirs de Centenay ou de Volnay 72 qui étaient, ma foi, encore intéressants il y a quelques années. Mais globalement, c'est pas un millésime qui aura marqué l'histoire de l'agriculture dans le bon sens du terme.
Ou que c'est bien dit quand c'est un millésime pourri. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des people qui sont nés en 72 sympas?
Ah oui, par contre, vous pouvez atteindre le paradis avec Vanessa, vous pouvez aller vous balader avec Jules Gaillet sur une petite moto, faire ce que vous voulez avec Isabelle Boulay, rencontrer Cameron Diaz, parler avec Guinée Patrol, donc il y a quand même du beau monde, comme on dit.
Elles sont charmantes.
Aller faire du rugby, je sais qu'on aime ça autour de cette table, avec Peter Duvillier, aller vous balader, sans parler d'ailleurs, avec Jean Dujardin, aller chanter avec David Charvet, vous restaurer avec Ben Affleck, pareil qu'il aime beaucoup ça, ou écouter les passes ou les tribles invétérés de Zinedine Zidane.
Zizou. Vous avez aussi Mathieu Gufflet dans votre liste de people, né en 1972 ou pas?
Gufflet, oui, juste après Garou, d'ailleurs.
Garou, exactement. C'est le premier invité, le président du groupe EPSA. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Alors, ce groupe EPSA, on va rappeler les trois grands métiers.
Alors, trois grands métiers, effectivement, depuis la création qui était en 2001. Le premier métier, c'est le conseil en achat, tout ce qui est optimisation des achats indirects. Le deuxième métier, c'est le métier de la gestion des achats pour le compte de clients, ce qu'on appelle le BPO achat. Et le troisième métier qui est plus récent, puisque c'est une acquisition qu'on a faite l'année dernière, qui est l'optimisation des charges et des taxes pour les entreprises. Et
au total, donc, 5 acquisitions depuis la création de la boîte, c'est ça ?
Exactement. Une première en 2011, et après, ça s'est enchaîné entre 2014 et 2015, la dernière.
Bon, aujourd'hui, une belle ETI, hein, 80 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, il provient de quoi ? En croissance organique ou externe ? C'est-à-dire que ça a été racheté ? C'est comment ?
C'est 50-50. C'est-à-dire qu'effectivement, les acquisitions qu'on a faites, dont on a parlé à l'instant, représentent à peu près 50% de notre croissance depuis le démarrage et 50% sur la croissance organique liée à des acquisitions clients, notamment.
Et le groupe, donc les clients du groupe, ce sont quoi ? Uniquement le CAC 40 ? On a aussi des ETI, c'est un peu plus large ?
Non, alors on a trois typologies de clients, effectivement le CAC 40, puisqu'on a la chance d'avoir 36 références du CAC 40 depuis la création du cabinet. Donc effectivement, on est là-dessus, un des plus gros.
36 sur 40 ?
36 sur 40, donc il nous en manque encore quelques-unes.
Qu'est-ce que vous faites avec les quatre derniers ?
La prochaine, on reviendra pour effectivement vous dire si on a pu les avoir les quatre dernières. Bon, sachant que le CAC évolue un peu, donc en réalité, on aura probablement un peu plus de références à avoir.
Bon, et ce groupe EPSA, il est franco-français ou vous êtes également exporté, si je puis dire ?
Alors aujourd'hui, 20% du chiffre d'affaires est fait à l'international. Donc on a effectivement... c'est encore un démarrage puisqu'on a lancé les premières exportations et les premières filiales en 2013. Donc c'est assez récent. Donc on a consolidé sur plusieurs pays. Donc là, la Belgique a été le premier pays sur lequel on a démarré une première filiale.
Puisque la Belgique est un pays ?
Alors il paraît que c'est un pays. En tout cas, un business qui est assez florissant pour nos métiers. Et on voit beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui sont là-bas. Beaucoup d'organisations aussi internationales qui sont en Belgique ou au Luxembourg avec qui on travaille également, puisqu'on travaille aussi avec le secteur public ou assimilé. Et puis récemment, donc à Milan, puisqu'on a ouvert un bureau à Milan et à Madrid, où on a trois consultants là-bas.
C'est que les pays chauds, vous.
Que les pays chauds. Alors historiquement, on est aussi aux États-Unis. Donc
ça vous tente pas, là, le Danemark, tout ça, là ?
Alors justement, on est en Pologne, on est en train de. Ah, voilà. Justement, on a une externalisation en Pologne aussi avec un partenaire local, où on a 6 personnes là-bas et ça commence à bien démarrer.
Le capital du groupe, qui sont les heureux actionnaires ?
Alors le fondateur, donc moi-même encore la majorité. Ensuite, on a effectivement des managers qui, là, nous aident depuis le démarrage du cabinet, enfin, même depuis le démarrage en 2003 et 2004, qui ont 25%. Et 25% sont détenus par deux fonds, principalement Rothschild, 20%, et Capella, qui est à 5% et qui nous accompagne depuis 2008.
Et aujourd'hui, donc, les 200 collaborateurs sont regroupés sur trois sites différents.
Trois sites en France différents, en dehors des filiales dont on vient de parler, mais trois sites, effectivement, un à Paris, qui est le siège social, pas très loin, à rue d'Anjou, où on a toutes les équipes du conseil et le siège social, un bureau à Lyon, où on a une trentaine de collaborateurs, donc c'est un bureau important pour nous, et puis un bureau où on a notamment le BPO avec tout ce qui est magasin, stockage là-bas, à côté de d'Evry, à Lys exactement, sur la zone des Malines.
Alors, il paraît que dans un an, quasiment un an, autour de la Trinité à Paris, dans le 9e arrondissement, ça va courir. Qu'est-ce qui se passe ?
Alors, il se passe que on a, depuis toujours, on est pas mal de coureurs dans cette entreprise. Moi-même.
Coureurs au sens propre du terme.
Oui, au sens propre. On peut préciser, effectivement.
Merci de la précision, Alain Marty.
Non, c'est important. C'est important.
Des marathoniens, non ?
Voilà, marathoniens, on fait des longues distances. Et là, on va faire des petites longues distances, mais en réalité, depuis pas mal de temps, on essaie.
10 km, quelque chose comme ça ?
Alors, c'est un peu plus court que ça. On a fait en partenariat avec le Royal Trinité, qui est une brasserie du 9e arrondissement, et le Upper Café, qui est la brasserie également dans le prolongement du 9e arrondissement. On a rencontré la mairie, on a rencontré des associations. On va lancer le relais de la Trinité avec les amis de la Trinité autour de la place de la Trinité. Donc ça sera un relais sur 400 mètres ou des équipes de 4. Donc c'est des fournisseurs et des clients qui vont venir.
De votre
groupe. Inviter, voilà, qu'on va inviter. Bien évidemment, à la fin, il y aura un dîner de gala qui sera servi au Royal Trinité. Et donc on va avoir pratiquement 400 coureurs, puisqu'on a déjà des équipes formées, 400 coureurs qui vont venir en relais. Et tout l'argent sera reversé au profit d'une association.
C'est très sympa. Alors, je sais, Mathieu Gufflet, que vous écoutez chaque week-end Invino BFM à Bordeaux, sur BFM Business 107.3. Vous avez également investi dans le vin.
Exactement. En 2007, exactement.
Vous avez un château.
Un château.
Châtelain.
Oui, on peut dire ça comme ça. Alors, c'est un château, vous savez, dans le Bordeaux, on appelle ça château. En fait, c'est une grande maison, mais c'est une maison du 18e siècle, 1773 exactement, qu'on a complètement retapé en 2007. C'était un domaine qui appartenait au vignoble Rivière à Saint-Émilion, qu'on a racheté donc en 2007. Et depuis donc maintenant presque 9 ans, on exploite ce domaine-là. J'ai une équipe de 7 personnes sur site et on exploite 40 hectares.
Et ce château,
comment s'appelle-t-il ?
Exactement, de Calac. Il est situé où exactement ?
Alors, il est situé à Ilatz, sur la commune d'Ilatz. Il est à vol d'oiseau à 10 km de Aubryon, pour citer des belles références, et à 6 km du château Yquem, puisqu'on a la chance d'être sur plusieurs appellations. On est en appellation grave pour le blanc et le rouge, en Cérance également, puisqu'on fait du Cérance, puisque sur Ilatz, on peut faire du Cérance. Mm-hmm. Et on a également l'appellation Sauterne, puisqu'on a 3 hectares sur Barsac, où on peut vinifier quelques hectares de Sauterne.
Et au niveau de la distribution, vous passez autant de temps à vendre une caisse de 12 que de vendre vos services pour arriver à 80 millions d'euros de chiffre d'affaires ?
Non, alors c'est ça qui est frustrant, et c'est pour ça que je me concentre plus sur l'activité de conseil que je maîtrise mieux. Effectivement, le vin, et notamment le grave, est encore un vin assez compliqué à vendre. Ceci dit, il y a encore de beaux débouchés, notamment à l'export. C'est un vin qui se tient bien. Aujourd'hui, on vend tout, donc on n'a pas trop de problèmes. On est en grande distribution, à peu près pour 40%, 40% à l'export et après 20% sur du particulier ou des cavistes. Et honnêtement, aujourd'hui, on a la chance d'une année sur l'autre de vendre toute notre récolte. Alors sur des prix qu'on essaie de maintenir, voire de faire progresser.
Oui, c'est combien en prix particulier, en blanc et en rouge?
Alors particulier, on va être sur la cuvée Prestige, puisqu'on a trois cuvées, on va être autour de 10 euros.
10 euros TTC?
Alors oui, 12 euros TTC, effectivement, pour le particulier, des par cave. On va tomber sur la cuvée, l'entrée de gamme autour de 6 euros.
Et alors le business cette année-là, 2000, ça s'annonce comment déjà d'un point de vue production, puis après vente. Là, on parlait tout à l'heure avec David de gelée, de conditions climatiques compliquées. Vous aussi à Bordeaux, c'est pas terrible.
Oui, alors quand j'ai commencé, on m'avait dit que de tenir tous les 10 ans, il y avait une récolte en moins. Donc comme 2014 et 2015 ont été des belles années, 2016 effectivement commence difficilement. Donc nous, on a eu la malchance de prendre un peu de gel. Autour du 1er mai, puisqu'on a déjoué assez tardive. Alors, ça n'a pas touché toutes les parcelles. D'ailleurs, c'était assez hétérogène. Assez incroyable, d'ailleurs, de voir des rangs complètement gelés et des rangs à côté complètement protégés. Mmh. Donc, on a eu vraiment une hétérogénéité du gel. Et je pense qu'on a été touché autour de 15%, comme à peu près toute l'appellation des grappes.
C'est pas mal, quand même.
Ce qui est pas mal, ce qui permet d'avoir des années un peu plus fortes, des années où on a un peu moins de stock. On sortait de deux belles années encore une fois. 2013 était moyen. Bon, 2016, on verra ce que ça donne au niveau du temps.
Alors, le fait qu'il y a plein d'auditeurs d'une vidéo BFM qui rêvent un jour d'acheter un vignoble, vous l'avez fait. Quel conseil vous pourriez leur prodiguer? Les deux, trois conseils. Avoir des sous peut-être.
Alors, des sous, oui. Le meilleur conseil, c'est d'éviter de faire un achat passion. Donc, c'est de faire un achat raisonné, en fin de compte, de se dire, bon, voilà, j'ai des moyens, effectivement. J'ai des moyens aussi d'avoir des mauvaises récoltes, parce que c'est ce qu'il faut anticiper. Mmh. Dans le conseil, on fait souvent des beaux tableaux Excel. Dans la vigne, ça ne marche pas. Donc, il faut vraiment prendre ça comme un projet, un vrai projet industriel, ou en tout cas un projet d'entreprise. C'est un peu l'erreur que font souvent les gens que je vois débuter dans le vin aujourd'hui, qui viennent me voir en me disant comment ça s'est passé au début. Donc ça, c'est le premier conseil. Le deuxième, c'est de pas faire de dépenses superflues. Moi, les premières années, j'ai mis pour la cuvée Prestige, j'ai mis des barriques neuves, j'avais un grand chai à barrique, j'ai 450 barriques dans le chai, 150 barriques
Petrus,
tous les ans.
Accrochez-vous.
Et en fin de compte, ça se valorise pas trop encore sur un vin de grave. Donc après, on a commencé à retravailler un peu différemment, notre cuvée Prestige, bien même sûr. La seconde cuvée. Et aujourd'hui, on a un vin qui est médaillé chaque année. Donc, ça prouve bien que les résultats sont bons.
Et pour terminer, il y a un site internet, une adresse peut-être pour prendre enseignement sur ce château de Calac.
Alors, châteaudecalac.fr. 3W bien sûr avant.
Merci beaucoup Mathieu, bon vent pour vos multiples projets. Nous marquons une première pause et ensuite on retourne ici chez Nicolas à Paris pour parler du Brésil.
Invino BFM. Alain Marty sur BFM Business.
Retour au restaurant Bar à Vin Nicolas pour cette émission en public et délocalisée avec Vladimir Kaufmann, le directeur de la RVI, qui nous propose de nous balader dans un pays qui va prochainement accueillir les fameux Jeux Olympiques, avec David Cobol inscrit sur le 110 mètres haies, avec le drapeau franco-anglais. Quoi.
C'est un scoop, ça.
Oui, c'est un scoop, oui.
J'envisageais autre chose, moi, mais bon.
Le Brésil, on peut faire beaucoup de choses. C'est un pays immense, avec beaucoup de variétés, donc ils sont très bons pour les jus de fruits, ils sont producteurs de café, et étonnamment, c'est une région qui est extraordinaire pour le vin, qui a mis du temps à mûrir, parce qu'ils font du vin depuis 700 ans, et depuis les années 90 seulement, ils ont découvert ce que c'était vraiment du bon vin, et ils ont commencé à l'exporter. Donc, à la Revue Vinicole Internationale, on parle beaucoup des vins français, on parle aussi un petit peu des vins étrangers, et j'ai eu l'occasion, il y a deux mois, d'aller au Brésil pour visiter les vignobles dans le sud du pays, à Bento Gonçalves. Alors, Bento Gonçalves, c'est un peu exotique, mais ça ressemble à la Toscane, c'est dans le sud du Brésil.
Ah, c'est joli donc, c'est très joli.
C'est sublime, on est à...
C'est pour ça qu'il y a autant d'Italiens dans le coin, peut-être.
Alors, c'est complètement italien, c'est incroyable, parce que y a des pizzerias partout, les Italiens sont arrivés en 1929 au moment de la crise, l'État brésilien leur a donné des parcelles, enfin, leur a donné des territoires, et ils ont commencé à cultiver du vin, parce que le climat et le terroir ressemblaient beaucoup à la Toscane. On a énormément de cépages français, italien, et dans les rues, on entend encore parler italien. Il y a des pizzerias absolument partout, et sur 50 km² entre Bento Gonçalves et Garibaldi, vous avez 95% des familles qui sont d'origine italienne.
Et quand même, et Jean-Bert Pitt, vous connaissez un peu le Brésil?
Non, le Rio Grande do Sul, mais une région où je rêve d'aller.
C'est... À découvrir aussi, quoi. Alain Crozier, vous connaissez un peu?
Ah oui, beaucoup.
Vous avez été au Brésil?
Ah oui, plusieurs fois. J'adore le nord, le sud, le centre, c'est fantastique.
Et on parle beaucoup italien?
Dans le sud, on parle beaucoup italien. Oui. En Argentine aussi, on parle beaucoup d'Argentine aussi.
C'est vrai qu'en Argentine aussi. Ça s'appelle pas Garibaldi pour rien, d'ailleurs, le secteur. Ouais. Voilà. Moi, j'ai découvert cette région lorsque j'ai.
En 1992.
Exactement, puisque le concours de meilleur sommelier du monde que j'ai gagné était organisé par nos amis brésiliens à Rio. Mais nous avions passé une semaine, justement, dans ce secteur-là. On s'était posé à Porto Alegre et puis monté sur Bento Gonzalves, Caxias do Sul.
Et alors, région qu'on appelle la Sierra Gaúcha.
Et oui, elles sont charmantes. Et surtout déjà à l'époque, alors c'était un peu les balbutiements début 90, hein, mais il y avait déjà le domaine Chandon qui était installé, le domaine Château Lacab, Miolo qui venait de planter ses premières vignes, etc. Donc il y avait déjà des domaines qui s'implantaient. On avait la sensation qu'ils voulaient faire vraiment quelque chose.
Il y avait un potentiel. Vladimir, alors le Brésil.
Alors justement, on a beaucoup de sparkling, de grosses propriétés qui font du sparkling là-bas, comme Chandon. Mm-hmm. On a aussi des très bons vins rouges et des vins blancs sur des cépages qu'on connaît. Moi, j'ai eu quelques coups de cœur là-bas. Alors, les vins Lidio Carraro, les vins Casa Velduga. Alors, ce qui est intéressant, c'est que chez Casa Velduga, on m'a dit qu'au Brésil, dans le sud du Brésil, c'était un pays de Merlot et qu'on faisait des super Merlots. Et chez Lidio Carraro, Patricia Carraro, donc la fille du propriétaire, qui est aussi directrice qui s'occupe des vins là-bas, m'a expliqué que chez eux, ils n'avaient pas encore trouvé quel était le meilleur cépage.
D'accord.
Et donc, à 2 kilomètres d'écart, j'ai eu deux versions très différentes. Mmh. Quelqu'un certain que le Merlot était...
Le cépage roi localement.
Et une famille qui faisait beaucoup plus d'essais, beaucoup plus d'assemblages. C'était vraiment...
Et ce vin, donc, brésilien, Vladimir, il est consommé localement, enfin, dans le pays, ou alors il est exporté aussi?
Alors, je pense que les vins... Il y a le marché local, qui est un marché très important. Et d'une manière générale, les Brésiliens considèrent que tout ce qui vient du Brésil, c'est pas terrible. C'est vrai dans l'agroalimentaire, c'est vrai dans l'équipement, c'est vrai dans les fringues. Donc les Brésiliens continuent à étonnamment consommer du vin argentin, chilien.
Le nec plus ultra, c'est pas de chez eux, quoi.
Exactement. Alors et donc du coup, ils sont obligés d'exporter des vins et qui sont pour beaucoup sont excellents. Donc Lidio Carraro vend en France. Par Vin du Monde, donc c'est Lavinia. Aurora, qui est une grosse coopérative de sparkling, ils sont vendus par Valade et Trasandine, qui est un négociant bordelais. Donc ils ont une démarche aujourd'hui d'export parce que les bons vins locaux sont pas compris par les consommateurs
aussi
locaux.
Miolo exporte beaucoup. Ouais.
Et ça, c'est un pays d'avenir. Vous pensez que le vin, ça va continuer à s'ancrer, à se développer en termes de production et de consommation aussi?
Avec Wine of Brazil, ils communiquent énormément sur le marché local et sur l'export, et ils ont une vraie démarche, et ils investissent beaucoup en communication, ils sont sur les salons, je pense que ça va beaucoup se développer. Et il y a beaucoup de notorisme qui se développe, donc c'est un bon signe.
Jean-Robert Pitt.
Oui, le Brésil fait partie de ce qu'on appelle les BRICS, donc les pays émergents. Ils le sont également dans le domaine du vin, aux côtés de l'Inde, de la Russie. Voilà un pays qui produisait du vin, mais qui n'en buvait pas beaucoup. On buvait plutôt de la cachaça et de la bière. Et puis aujourd'hui, le Brésil, les Brésiliens se mettent à boire du vin. Et ça, c'est un phénomène tout à fait extraordinaire de voir des pays nouvellement gagnés au goût du vin.
Pour terminer, Vladimir, le prix de ces bouteilles de vin brésilien, on est dans des choses raisonnables, on peut atteindre quelques sommets qu'on peut trouver dans certaines régions françaises?
Alors je pense qu'on est entre 5$ pour des effervescents très corrects, pour des mousseux, là-bas ils appellent ça encore du mousseux, et jusqu'à 50$ pour des grands crus de maisons un peu plus haut de gamme.
D'accord. Et Cobol, vous avez goûté des vins brésiliens?
Oui, et puis on peut en trouver en France. Je sais qu'il y a la cave dont on a parlé plusieurs fois ici, qui s'appelle Soif d'ailleurs, qui ne vend que des vins étrangers. C'est le plus gros point de vente pour le pétillant de Miolo en dehors du Brésil.
Ah bon?
Oui, c'est extraordinaire.
Confirmez ce que dit Vladimir, c'est très bon? Enfin, c'est à 5 euros, bon.
Non, mais je crois que ça vaut ici 7 euros ce flacon-là, et c'est remarquable en qualité prix pour ce prix-là. Hein.
Très bien, merci beaucoup Vladimir Kaufmann, le directeur de la RVI, Revue Vinicole Internationale, de BFM. Retrouve le grand sourire franc de Philippe Forbach pour nous permettre une dégustation très sympa, avec modération, un bon petit verre de muscat de Frontignan. C'est où Frontignan?
Frontignan, c'est dans l'Hérault, à côté de Sète, pas loin de Mireval, à proximité de l'étang de Thau. Donc c'est un endroit qui est assez béni, j'allais dire, par le soleil, par la protection grâce au massif de la Gardiole, qui protège un peu des vents également et qui permet justement à ce muscat particulier, ce muscat petit grain dit d'Alexandrie, de mûrir correctement et d'avoir ce côté doré, voire rosé de temps en temps,
qui donne des vins assez remarquables.
C'est toujours à la mode le Muscat ou ça en perte de vitesse?
Alors c'est toujours un vin de référence. La consommation a baissé quand même ces dernières années, c'est clair, par rapport à une certaine époque. Pourquoi ça a baissé? Parce que simplement avant, on buvait du Muscat à l'apéritif, on buvait du Muscat dans certaines familles à 4 heures. C'était le vin un petit peu qu'on sortait quand les amis arrivaient. Aussi, ça s'est perdu. Pour différentes raisons, parce que d'abord il y a une concurrence avec d'autres types de boissons, et ensuite parce que la sucrosité particulière, le fruité intense, l'alcool qui est quand même assez présent dans ce genre de vin est un peu moins tendance aujourd'hui.
Dommage parce que qu'est-ce que c'est bon.
Et c'est, mais c'est très bon.
Avec modération. Alors, c'est un régal. Alain Crozier, vous aimez le Muscat ou pas?
J'adore. J'adore.
Vous en consommez un petit peu ou...
un petit peu, dans en apéritif, assez frais.
Ouais.
On est sur des baumes de Venise.
Par exemple.
Par exemple.
C'est une chose.
C'est très bon. Ah, très très bon. Très, très
bien. Vladimir, vous aimez le Muscat?
Oui, j'en bois assez régulièrement.
Ah, vraiment? C'est pas pour l'émission que vous dites ça, c'est
non,
la vérité vraie.
Non, c'est sucré. En fait, j'aime bien les vins doux.
Ah, d'accord, c'est autre chose. Et vous, Jean-Bert?
Ah, moi, j'aime beaucoup, et plutôt que de le boire à l'apéritif, parce qu'après, c'est difficile de servir, par exemple, un vin blanc sec, si on fait un vrai repas où il y a 3 ou 4 vins différents, je le conseille plutôt... avec une soupe de fruits tels que des melons, des pêches blanches.
Donc au dessert, quoi, avant l'accompagnant de dessert.
Oui, mais pas un dessert trop
pas
sucré.
Tous les desserts.
Pas trop sucré.
Mm-hmm.
Avec un gâteau aux amandes, mais pas trop sucré non plus. Et ça, amandes, fruits d'été. Comme
mariage d'enfer, quoi.
Mariage parfait.
Philippe.
Il y a effectivement de très belles associations à faire. C'est vrai que j'ai parlé souvent du Muscat, du Cap Corse, de Rivesaltes, très cher à notre ami Alain Martini, de Baume de Venise qu'on a déjà cité, etc. Et j'avais jamais eu l'occasion de parler de Frontignan. Et pourtant, Frontignan est symbolique de plusieurs éléments. D'abord, c'est un des plus vieux muscats qui soit en France. À l'époque de la Narbonnaise, c'est quand même là qu'on avait planté parmi les premiers muscats. C'est un cépage qui, même s'il s'appelle le muscat de petits grains dit d'Alexandrie, a plutôt été apporté par les Grecs. Et il s'appelait d'ailleurs à l'époque grecque Apinea uva, ce qui veut dire le raisin qui attire les abeilles, tellement la concentration au sucre au départ faisait en sorte que effectivement les abeilles venaient volontiers butiner dans ces rangs de muscat. Ensuite, la situation particulière de Frontignan, pas loin du canal du Midi, a permis d'exporter ces vins en dehors de la région, même en dehors du pays, puisque en descendant jusque dans le Bordelais, les vins de Bordeaux ont beaucoup, la région de Bordeaux et la place de Bordeaux ont beaucoup vendu du muscat parce que c'était tendance, ça marchait bien et il y a des volumes de production énormes. Ensuite, il faut pas oublier que la bouteille frontignanaise, la forme de la bouteille, dont Jean-Robert Pitt a parlé dans son très joli
excellent livre,
la bouteille, et l'histoire de la bouteille est très attachée, bien sûr, à l'histoire de la production. L'origine de la bouteille bordelaise, c'est cette bouteille cylindrique particulière qu'on appelle la frontignanaise au départ. Et d'ailleurs, quand les Bordelais ont adopté cette bouteille, les gens de Frontignan, lorsqu'ils ont eu l'appellation contrôlée, c'était le 31 mai 1936, ont décidé d'imposer dans le cahier des charges d'utiliser une bouteille torsadée, avec un écusson en relief sur la bouteille, de manière à se singulariser par rapport à la bouteille, effectivement, bordelaise, qui était utilisée un peu dans le monde entier. Donc tout ça, ce sont des éléments qui font qu'on a un repère particulier, on reconnaît une bouteille de Frontignan de loin. Quand on met le nez dedans, on a ces notes de fruits, de raisins frais, d'abricots, de pêches de vigne, de roses, etc., qui sont très caractéristiques. Exactement. Et puis en bouche, la gourmandise, la suavité, la sucrosité certes, la générosité peut-être, mais toujours aussi un petit peu d'agrumes qui est là et qui permet de rafraîchir le palais. Donc c'est vrai que l'apéritif, on est un peu loin. Moi, j'ai découvert le muscat plutôt en début de repas, dans la vallée du Rhône et là où habitait ma maman, dans la Drôme. Le muscat était servi dans un melon, par exemple, avec un peu de jambon, et on arrosait, au dernier moment, on remplissait le melon dans son cœur avec du muscat.
Plusieurs fois.
Et c'était plutôt sympathique.
Avec modération, monsieur Bill.
D'aller faire des petites quenelles de melon au milieu, de les enrober de muscat, c'était vraiment très sympa. Sur un foie gras, sur un fromage bleu, les biscuits aux amandes.
Et on ne sait pas, ça c'est bien écouté
de
vidéo.
Il y a beaucoup de possibilités. Quelques vignerons rapidement avant de partir. Le château de la Peyrade, la cave de Frontignan, qui est quand même une des caves de référence, le domaine qui s'appelle Citerre, le Mas Rouge, le Clos de la Gardiole, par exemple, le domaine des Aresquiers ou le domaine de Stony. Il ne faut pas oublier également que la tendance moelleuse, liquoreuse, un peu moins de marché aujourd'hui. Du coup, ils ont développé des indications géographiques protégées en muscat sec,
en moelleux. Et on a parlé du pétillant et des mousseux brésiliens. Il faut savoir qu'il y a aussi des muscats pétillants, y compris des muscats rosés pétillants, qui sont tout à fait agréables et assez remarquables.
Et le prix d'une même bouteille, Philippe, de muscat Frontignan ?
On est entre 10 et 15 euros la bouteille, à peu près.
Merci beaucoup, Philippe Arbrach. Nous marquons une pause pour les infos et ensuite retour chez Nicolas à Paris pour parler du retour en grâce du vin en France. Enfin, une bonne nouvelle.
Invino BFM. Alain Marty sur BFM Business.
Retour au bar à vin restaurant Nicolas Paris, place de la Madeleine pour cette émission en public et délocalisée avec le Vino Quiz et Alain Crozier.
Alors je vous rappelle le principe, chaque semaine nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un exemplaire du guide des vins du Wine & Business Club. Alors la semaine dernière, la question était, quelle édition célèbre cette année Bordeaux Fête le Vin ? La réponse A était la première. Réponse B, la dixième. Et réponse C, la cinquantième.
Et la bonne réponse est, Alain ?
La réponse B, la dixième édition.
Alors cette semaine ?
Alors cette semaine, voici une nouvelle question. Quel est le cépage qui produit les vins de l'appellation Condrieux ? La réponse A, le Viognier. La réponse B, le Chenin. Et la réponse C, le Petit Menthon. Alors pour répondre et gagner un exemplaire du guide des vins du Wine & Business Club, vous pouvez envoyer dès maintenant votre réponse à l'adresse mail invino@vinojeu.com.
Et le gagnant sera
tiré au sort parmi les bonnes réponses.
Merci beaucoup Alain Crozier de Vino BFM. Retrouve maintenant Jean-Robert Pitt, le président de l'Académie du vin de France, qui est très heureux, Jean-Robert, parce que ça y est, la France, elle re-aime son vin.
Oui, les affaires reprennent, tout va mieux en matière d'attitude des pouvoirs publics vis-à-vis du vin. Je voudrais faire un tout petit rappel historique, c'est que à une époque avant la Seconde Guerre mondiale où les gouvernements français successifs depuis la fin du 19e siècle, depuis le phylloxéra, encourageaient la consommation du vin raisonnable, bien entendu, mais comme moyen de lutter contre l'alcoolisme à partir des alcools distillés, comme moyen également de promouvoir la viticulture et de promouvoir la santé, se fondant sur Pasteur, le vin est la plus saine et la plus hygiénique des boissons. À cette époque-là, donc les ministres encourageaient la consommation du vin. À cette époque-là, au contraire, dans beaucoup de pays anglo-saxons et de tradition puritaine protestante, au contraire, c'était la grande époque de la prohibition. Il faut rappeler qu'entre 1920 et 1930, il a été très 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 difficile de produire du vin aux États-Unis. Quelques-uns ont réussi à le faire en disant « nous sommes catholiques, on a besoin de vin de messe », les Mondavi par exemple, en Californie. Mais c'était très difficile, c'était la prohibition intégrale. Avec comme effet, évidemment, un développement fantastique de l'alcoolisme dur à base d'alcool fort et d'alcool trafiqué, d'alcool
frelaté, etc.
Complètement, donc, et le développement de la mafia, etc. Donc une catastrophe qui a toujours des effets aujourd'hui, d'ailleurs dans certaines méthodes de consommation dans les pays anglo-saxons, qui est le binge drinking, c'est-à-dire la défense du vendredi soir, qui se pratique toujours. Mais après la Seconde Guerre mondiale, petit à petit, progressivement, ça s'est pas fait d'un coup, ça s'est fait d'année en année, il y a eu le verre de lait de Mendès France, etc. Mais petit à petit, les choses ont changé, et on a essayé de culpabiliser les Français, pas seulement autour de l'alcoolisme, ça, ce qui est très bien et normal, c'est vraiment le rôle d'un gouvernement de faire ça, mais autour de la consommation de toute boisson alcoolisée, qu'elle soit fermentée ou distillée, et le vin en particulier. Donc ça, c'est quelque chose que les vignerons n'avaient pas vu venir, parce que ça s'est fait tellement progressivement. À l'époque où les Américains, donc 1930, on abandonne les lois de prohibition, parce qu'on en connaît les effets dramatiques, d'autres pays comme l'Angleterre, la Nouvelle-Zélande, le Danemark n'avait jamais été très prohibitif, mais la Suède, la Norvège, l'Australie...
Le Canada,
le Québec en particulier, se mettent à être, non pas laxistes, mais à dire, bon, faites attention, mais c'est bien de boire du vin, mais on va vous apprendre à le boire, comme le fait la société des alcools du Québec, tout ça est formidable. Petit à petit, la France s'est dirigée, s'est enfoncée dans une espèce de politique de prohibition, dont un des sommets a été la loi Evin de 1991, qui partait d'un bon principe. Bien sûr qu'il faut lutter contre l'alcoolisme et la tabagie, mais on sait très bien que l'interdiction, surtout dans un pays comme la France où on est volontiers frondeur, a des effets exactement contraires à ceux que l'on recherche. Donc on est arrivé jusqu'à une espèce de côté pécamineux. Boire du vin, c'est pas bien, il faut pas en parler, donc faut surtout pas en parler aux jeunes, parce que ça risquerait de donner de mauvaises idées, moyennant quoi, comme aux États-Unis avant la guerre, les jeunes se sont mis à pratiquer le binge drinking, qui était une pratique rarissime, qui se pratiquait de temps en temps à l'armée ou entre carabins, mais de manière rarissime, tandis que là, chez les jeunes collégiens, lycéen, c'est devenu une pratique habituelle et dans des milieux, à la fois des milieux très populaires, mais aussi dans des milieux cultivés où les parents sont complètement effondrés de voir leurs enfants arriver un samedi matin dans un état où aller les chercher à l'hôpital parce qu'ils sont en état de coma éthylique. Alors, les choses sont en train de changer, heureusement, parce que je crois que toute interdiction brutale sans éducation ne sert strictement à rien, et particulièrement en France, mais c'est vrai dans le monde entier. Et aujourd'hui, les choses vont un petit peu mieux parce que depuis le 24 novembre dernier, sous la pression, il faut le dire, du président de la République, du ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius à l'époque, d'Emmanuel Macron, de Matthias Fekl, ministre en charge du tourisme, et qui sont tous des amateurs éclairés de bon vin, mais pas du tout, ils n'ont pas du tout envie que les Français s'alcoolisent. Eh bien, on a réussi, et ça n'a pas été très facile, à atténuer la loi Evin. Donc ça s'est passé le 24 novembre et c'était une grande date. Donc maintenant, aujourd'hui, on peut faire de la publicité à condition qu'on parle des terroirs.
Surtout à clarifier, parce que cette loi est d'un flou absolument inimaginable.
Elle insistait sur l'interdit et non pas sur l'éducation. Donc aujourd'hui, on a le droit de parler des terroirs, on a le droit de parler des paysages, on a le droit de parler du patrimoine. Donc du moment que ça se rattache à une production géographiquement ancrée, ben je trouve ça formidable parce qu'on a fait beaucoup d'efforts. L'INAO a fait beaucoup d'efforts pour protéger justement des appellations, des vins de grande qualité. Donc c'est enfin devenu possible. Mais vous savez que le ministre actuel de la Santé s'est beaucoup battu pour empêcher que cette loi passe jusqu'au dernier moment et contre l'avis d'autres membres du gouvernement. C'est quand même une scène surréaliste à l'Assemblée nationale, alors que le président de l'Assemblée était plutôt pour ce changement, léger changement.
Les régions viticoles sont plutôt à gauche aussi, non ?
Oui, mais non, mais le ministre de la Santé s'est fait le porte-parole d'un certain nombre de milieux médicaux qui sont encore aujourd'hui très, très, très fortement prohibitionnistes et qui pensent que si on touche à cette espèce de vache sacrée qui est la loi Evin, eh bien, on va développer l'alcoolisme en France. Alors, il y a eu d'autres événements sur lesquels je voudrais insister, et parlons-en, puisque nous avons un président de la République qui l'a dit très récemment, ça fait trois fois qu'il va à Bordeaux, une fois c'était pour inaugurer un pont, mais il est venu inaugurer Vinexpo en 2015, ce qui est quand même aussi une manière de petit événement, parce que Vinexpo, c'est quand même une manifestation majeure de la viticulture française et mondiale, et des échanges économiques autour du vin. Et il est venu inaugurer la nouvelle cité du vin il y a quelques jours à Bordeaux, avec un discours que j'ai écouté intégralement et qui était un discours vraiment très positif sur le vin, n'incitant pas à l'hyperconsommation, mais un discours très très positif montrant combien le vin est une boisson de culture et ce en quoi le discours de notre président de la République s'est rapproché de celui des grands hommes politiques ou femmes politiques, Mme Kirchner par exemple, d'Italie, d'Espagne, du Portugal, donc d'Argentine, du Chili, où on parle du vin, j'imagine au Brésil aussi, qu'on a évoqué tout à l'heure, comme d'une boisson bonne, à condition de ne pas en abuser, une boisson de culture
un produit culturel.
Un produit culturel, ce qui me paraît très important. Je dois ajouter autre chose aussi. Je voudrais évoquer le rôle que la France a joué auprès de l'UNESCO, et c'est toujours passé en 2015, donc c'est il y a quelques mois, en faisant classer en même temps, alors que chaque pays a le droit à deux dossiers pour classer au patrimoine naturel et culturel de l'humanité et à l'UNESCO, deux dossiers par an, et la France a présenté et obtenu gain de cause deux dossiers viticoles, c'est-à-dire d'un côté ces coteaux maisons et caves de Champagne, et de l'autre côté ce sont les climats de Bourgogne, deux dossiers très différents mais qui au fond convergent parce que ce sont les deux grandes cultures du vin en France que l'on a ainsi couronné et fait rentrer au patrimoine mondial de l'humanité. Et il va y avoir des effets tout à fait positifs sur le tourisme et sur la connaissance du vin, parce que en fait, quand on connaît bien ce que l'on boit, on ne boit pas n'importe comment, on fait un petit peu attention, et donc ça va dans le sens d'une consommation éclairée. Et puis je rappelle qu'en 2010, et ça aussi c'est le gouvernement français, c'était un autre gouvernement, mais peu importe, qui s'est beaucoup battu pour que ce dossier soit classé à l'UNESCO, alors dans la catégorie patrimoine immatériel. C'est le repas gastronomique des Français qui a donc parmi ces éléments majeurs le fait qu'on accompagne au cours d'un repas de fête un certain nombre de mets avec un certain nombre de vins différents pour essayer de trouver des harmonies entre les mets et les vins. Et maintenant, c'est au patrimoine mondial de l'humanité. On reparlera peut-être dans quelques mois d'un colloque que nous devons tenir en novembre au château de Ferrières sur les accords mets-vins pour essayer de célébrer cet élément majeur et qui est curieusement en train de gagner d'autres pays. Je fais une toute petite parenthèse si je me le permettez. Je reviens du Japon où j'ai vu dans pas mal de repas des repas japonais, pas du tout francisé, mais de repas purement japonais, où on sert différents types de saké, c'est-à-dire avec chaque plat, on sert un saké différent.
Une copie, quoi, c'est ça?
Oui, mais nous, on a copié beaucoup le Japon, parce que l'influence japonaise dans les présentations, les goûts, etc., de la cuisine française est très importante. Et je trouve que cet échange est assez drôle de voir l'idée de servir de plusieurs sakés différents avec les différents plats. On dirait, avec ce plat, peut-être
on pourrait essayer tel saké,
celui
quoi,
de telle région, etc. Donc ça, je trouve ça assez étonnant.
Au propos de Jean-Robert Pitt, Philippe Aubrac, il y a eu beaucoup de choses dans l'intervention de Jean-Robert.
Il y a eu beaucoup de choses et ça donne l'espoir. C'est finalement les idées qu'on véhicule ici depuis un certain nombre d'années.
Vous sentez que ça va mieux, que les politiques nous aiment plus, qu'il y a un peu de reconnaissance d'un vrai travail, d'un vrai métier et d'un vrai plaisir, pardon, de plaisir aussi.
Disons que ce que le politique exprime aujourd'hui d'une façon publique, c'est ce qu'il disait lorsqu'il était autour de la table. Et ça, moi, je le vois dans un restaurant comme le mien, par exemple. J'ai quand même pas mal de gens.
Quelques noms, de ministres qui viennent régulièrement chez vous.
Des ministres.
Qui disent du bien ou du mal du vin français.
On les connaît tous. Non, mais Stéphane Le Foll, par exemple, le ministre de la Culture, est quelqu'un qui a toujours aimé les bonnes choses et qui sait les faire partager.
Ou un ancien ministre comme Christian Jacob, par exemple.
Exactement, Christian Jacob et les uns les autres, que ça soit de droite ou de gauche.
Vous prenez tout le monde dans la situation. Vous prenez les gens de gauche, de droite. Vous prenez
tous les gens qui viennent et qui payent leur addition sont les bienvenus. Mais c'est important quand même de le dire. Mais non, ce que je veux dire, c'est qu'on entend aujourd'hui, effectivement, d'une façon plus publique, ce qu'on entendait à titre privé avant.
Ce qui se jetait. Exactement. Alain Crozier, en tant qu'amateur de vin, je rappelle que vous êtes président de Microsoft France, vous êtes avec nous parce que vous adorez le vin. Vous êtes concerné par tous ces propos, vous le ressentez en tant que consommateur, ou au contraire, c'était plutôt ésotérique ou limité à une profession ?
Non, je pense que tout ce qui peut aider à faire en sorte que le vin soit encore plus apprécié. Je pense que c'est louable, donc oui, ça m'intéresse. Si ça nous permet d'exporter encore plus facilement, ça m'intéresse. Donc si le vin arrive effectivement à revenir sur la table avec toute la puissance, toute l'histoire qu'il y a derrière et autres.
La noblesse aussi.
Eh bien, exactement. Je pense que c'est intéressant et il faut continuer.
Vous, à titre personnel, combien de bouteilles dans votre cave? On ne dira pas où vous habitez, hein, mais juste là, à peu près, hein, à 300 près, quoi. Combien?
Je sais pas, quelques centaines.
Quelques centaines. Il est très modeste, Robert.
Non, je dirais aussi que encourager les gens à consommer raisonnablement du bon vin en sachant ce qu'ils boivent, sachant d'où il vient, ça les rend plus intelligents, plus cultivés, mais aussi ça leur donne le moral et dans la situation actuelle de la France, on en a besoin. Donc, vive le bon vin.
Vladimir Kaufmann, vous en pensez quoi? C'est une petite réaction sur les propos de Jean-Robert Pitt.
Je crois qu'il était temps de clarifier la loi Evin et c'est une bonne chose. Ça représente. Alors, on parlait de 500 emplois directs dans le vin jusqu'à 500 000 emplois directs dans le vin jusqu'à 800 000 emplois indirects. Donc ça,
monde,
ça concerne quand même quelques personnes.
Oui, et puis en plus, ils sont pas en grève. Allez, terminé. Merci beaucoup à tous. Nous marquons une dernière pause et ensuite, retour chez Nicolas à Paris pour parler du Condrieu et de la Géorgie. Eh oui.
Invino BFM. Alain Marty sur BFM Business.
Retour au restaurant-bar Nicolas à Paris, place de la Madeleine, pour cette émission en public et délocalisée avec Alain Crozier, le président de Microsoft France, qui n'est pas parmi nous pour nous parler de cloud, de big data, ça on oublie, mais de vin, avec une belle appellation, les Condrieu.
Oui, alors les papes d'Avignon l'appréciaient au XVIe siècle. Le chapitre lyonnais l'offrait aussi aux invités de marque. Et donc, plus près de nous, Kurlansky, Maurice Edmond-Saillant, de son vrai nom, figure de la gastronomie française, eh bien, le citait comme un des plus grands vins blancs de France. Bon, malheureusement, le phylloxéra, la guerre de 14-18, la crise des années 30, et encore conjuguée avec une industrialisation de la région, ont quasiment fait disparaître ce vignoble. Et il en a resté jusqu'à pas loin de 10 hectares. Donc vraiment, quasiment disparu. Et était-il condamné? Eh bien non. Lente renaissance, avec d'abord une AOC qui a été créée en 1940, et donc qui a permis au vignoble de renaître, mais surtout aussi de bénéficier dans les années 80 du dynamisme de ses voisins, et notamment, évidemment, Côte-Rôti et Saint-Joseph. Alors, le berceau du cépage vionnier se situe à Condrieu, sur les coteaux des villages et des coteaux des villages voisins, et donc la boucle est bouclée, hein, Condrieu, vionnier, Condrieu. Alors, ces coteaux abandonnés ont été replantés, les murettes sont maintenant reconstruites, comme on dit, et derrière tout ça, il y a toujours des hommes et des femmes. Et je vais en citer un qui a joué un rôle majeur, c'est évidemment Georges Vernet. C'est grâce à lui que le Condrieu a pu vraiment renaître. C'est le sauveur de l'appellation Condrieu. Alors évidemment, il a développé son domaine, un domaine qui porte son nom, qui est dirigé maintenant par sa fille, Christine, et qui a créé la prestigieuse cuvée Les Chaillets de l'Enfer, que je recommande à tout le monde. Bon, le vignoble, il est très accidenté. toute mécanisation est impossible, donc on entretient tout manuellement, on ramasse et on récolte évidemment à la main. Tout ça arrive aux caves dans des petites casettes, et le deuxième tri est réalisé à la cave après celui qui a été fait dans les vignes. Donc c'est très intéressant comme type. C'est un tout petit vignoble, d'accord. Il y a des grandes maisons, il y a des grands viticulteurs. Alors bien sûr Guigal, François Villard à Saint-Michel-sur-Rhône, Yves Cuiron que je recommande à Chavenay avec en particulier sa cuvée Les Chaillets, ou Jean-Michel Girin. Mais moi je vais vous parler en fait de deux frères. Donc les frères Patrick et Christophe Bonnefond, qui sont à Mornas. Donc eux, ils sont issus d'une génération des jeunes vignerons. Alors ils exploitent en Condrieu 1 hectare. Donc c'est vraiment tout petit. Mais je vous le conseille. Alors évidemment, c'est bouquet aromatique, intense, agréable. Il y a de l'abricot, ils vendent de la pêche, de la vanille, de la fleur d'acacia, de la violette, des épices. Évidemment, un fond boisé. Qui est assez reconnaissant et reconnaissable dans cette appellation. Alors une très belle découverte pour les amateurs de Condrieu et qui nécessite un tout petit peu d'aération, donc je vous conseille les frères Patrick et Christophe Bonnefond à Mornas, allez leur rendre visite. Un accueil extraordinaire, mais il faut arriver en ayant le temps et en prenant le temps, sinon comme tout vigneron qui se respecte, vous risquez de passer un mauvais moment.
Donc pas trop speed. Jean-Robert Puy, c'est vrai que le leçon de temps, la zénitude, c'est important.
Ah, ça c'est tout à fait essentiel, mais il faut prendre le temps de déguster, bien sûr, et de parler avec les vignerons, mais à Condrieu, il faut aussi prendre le temps de voir les paysages, d'en bas vers le haut, parce que c'est un travail gigantesque qui a été accompli depuis l'origine de ce vignoble, qui est un des plus vieux vignobles de France qui existait dans l'Antiquité, mais qui continue à progresser. On a parlé du domaine Vernet, Christine Vernet a fait replanter le coteau du Vernet, précisément, qui est une pure merveille d'esthétique paysagère avec des murettes qui ont été très très
tenues.
Du Vernon.
C'est vrai que c'est Vernon Vernet.
Coteau du Vernon, avec des vins absolument délicieux. Et puis, peut-être on pourrait mentionner aussi un petit îlot au sein du Condrieu, qui est le Château Grillet, qui est une des vieilles appellations françaises aussi, qui appartient aujourd'hui à M. Pinault, mais qui fait
un vin unique.
Alain
Crozier, combien ça coûte une bonne bouteille de Condrieu chez vos amis, Bonnefond?
Une trentaine d'euros, 30-35 euros.
Et vous le conseillez jeune ou pas? C'est-à-dire qu'on peut, on peut prendre du plaisir au bout de 2-3 ans ou
On peut prendre du plaisir après 2-3 ans.
Oui, directement. Il faut voir que vous adorez le Condrieu.
Moi, j'adore le Condrieu. Et puis, c'est vrai que j'aime beaucoup Georges Vernet qui m'a fait découvrir vraiment. C'est la première personne que j'ai croisée lorsque je suis arrivé à Condrieu pour la première fois. Et c'était la combinaison, d'ailleurs, de l'énergie productive de Georges Vernet qui voulait absolument faire vivre cette appellation, aidé par Étienne Guigal, le fondateur de la dynastie Guigal, qui commercialisait finalement ce vin. Et c'est les deux compères qui ont réussi à faire ça. Et c'est un très joli terroir. On fait un peu de moelleux aussi. Et dans la tradition de Condrieu, il y a un peu de moelleux.
C'est bon, ça?
C'est plutôt pas mal.
Comme l'ermitage.
Exactement. Et André Perret, juste un petit, voilà, quelqu'un que j'aime beaucoup aussi. C'est un très beau vignoble.
Merci beaucoup, merci Alain. Une vidéo BFM retrouve maintenant le cofondateur de l'Académie du vin de Paris, David Cabol, qui nous trace une ligne directe entre Condrieu et la Géorgie.
Je ne sais pas s'il y a une ligne directe, mais en tout cas, la Géorgie a beaucoup...
À moto, vous pouvez y aller à moto, non?
Oui, ouais, c'est loin. Cette fois-ci, j'ai pris l'avion, mais c'était compliqué parce qu'il faut passer par la Turquie, il faut changer parce qu'il n'y a pas de vol direct pour Tbilissi, qui est la capitale de la Géorgie. Tbilissi. Alors, la Géorgie a beaucoup de choses à nous enseigner. Est-ce que vous savez, Alain Marty, combien de mots existe-t-il pour le vin dans les pays d'Europe?
De mots?
De
M-O-T-S.
Vin, on peut dire que vin, vinum, vino, vin. C'est toujours la même racine. Et savez-vous d'où ça vient?
Non.
Bien, ça vient de Géorgie. Gvino.
Gvino.
Gvino, qui est le mot géorgien pour le vin.
Vous avez ça comment?
Eh ben, Gvino.
Ah oui, on connaissait l'équipe de foot.
Je crois que je prononce pas correctement. Ça doit être Grino.
Très léger accent.
Mais l'esprit est là. Il y a que trois consonnes qui se suivent.
Oui, c'est difficile. Vous allez voir tout à l'heure. Je vais avoir beaucoup de mal à prononcer les noms de cépages. Mais la Géorgie, c'est un pays qui a une histoire absolument énorme. Beaucoup de pays revendiquent l'origine du vin. La Géorgie a peut-être la meilleure carte à jouer dans ce domaine. Les dernières recherches archéologiques montrent que on faisait du vin dans des parties au sud du Géorgie il y a 8000 ans.
Ah, quand même, oui.
Oui, il y a 8000 ans. Donc, il y a l'Arménie, l'Azerbaïdjan, toute cette région dispute l'origine du vin, même une partie du nord de l'Irak. Mais bon, c'est par là que le vin est né. C'est-à-dire que c'est là où l'être humain s'est sédentarisé sur la durée pour la première fois. Parce que faire pousser du blé, il suffit d'y être là un an, on récolte, mais faire du vin, c'est plus long. Donc là, on parlait du temps avec Jean Rambert
et avec Alain
tout à l'heure, mais le temps est essentiel dans le vin et même pour la genèse du vin. Donc la Géorgie a cette très longue histoire. Alors cette histoire, évidemment, a été fortement interrompue par le grand ours du Nord, le Russe, qui contrôlait ce pays depuis 1810 et ensuite sur l'ère soviétique, il a vraiment massacré. En soviétisant à outrance comme partout, avec quand même des petites zones privilégiées. Il ne faut pas oublier que Staline était d'origine géorgienne, hein, ce qui a donné quelques possibilités aux Géorgiens, mais pas beaucoup. Alors, quand on pense longueur et durée, on pense aussi diversité biologique, ampélographique. La Géorgie a 540 cépages authentifiés.
En France, elle en a combien, David ?
250.
Eh, carrément, le double, Géorgien.
Le double, dans un tout petit pays. Hein, c'est minuscule. Alors, 540, aujourd'hui, on exploite peut-être 50. Mais bon, ils existent, cette diversité botanique existe, et ça prouve aussi la longévité de la culture du vin. Moi, je suis allé récemment pour la première fois. J'ai un peu découvert ce pays. La grande zone de production est tout à fait à l'est du pays, allant vers la mer Caspienne, vers l'Azerbaïdjan. Et cette zone produit à peu près 70% du vin de Géorgie. Il y a d'autres zones. Il y a la zone pas loin de Tbilissi, puis une zone occidentale proche de la mer Noire qui est beaucoup plus humide. Donc la partie est est plus... Là, on est au long des Caucases, des montagnes de Caucase. Les vignes en général dans la vallée.
C'est joli, les paysages sont jolis.
Oui, c'est spectaculaire. On voit des montagnes au fond avec de la neige au-dessus, un grand vallée ex-glacial avec un sol un peu comme dans le Médoc, très caillouteux, plutôt Châteauneuf-du-Pape. Voilà.
D'accord.
Vous voyez beaucoup de galets, ça dépend des zones. Une culture très très riche parce qu'il y avait aussi l'importance de la chrétienté dans ces pays-là. Je rappelle qu'à la Géorgie, le symbole de la Géorgie, c'est une croix rouge sur un fond blanc, comme le drapeau anglais. D'ailleurs, je crois que les Anglais ont piqué le drapeau aux Géorgiens.
Ah, c'est vrai. On a compris le frontignon avec la bordelaise. Jean-Baptiste.
Ça, c'est les Géorgiens.
Je voulais dire que on parlait des paysages, c'est absolument merveilleux, en Carétie, qui est la partie orientale. Mais le problème, c'est que l'héritage soviétique, c'est qu'on a planté les vignes dans les fonds de vallée qui sont les parties les plus humides. Et qu'il y a des terrasses suspendues d'origine glaciaire qui sont à quelques dizaines de mètres de hauteur au-dessus des fonds de vallée où on pourrait faire des vins absolument prodigieux. Ouais, moi, je leur recommande vivement, à chaque fois que j'y suis allé, de planter dans ces coins-là.
Le drapeau géorgien, c'est la croix de Saint-Georges.
Oui.
Et moi,
qui est le saint patron de l'Angleterre aussi.
Aussi. Et j'étais en Géorgie, dans le Caucase, dans les régions viticoles. Moi, j'ai eu un coup de cœur pour le château Moukrani, qui est une superbe propriété. Et je voudrais revenir juste un instant sur le temps. On a parlé de l'Antiquité, on a parlé du temps. En grec, le temps, il y a deux manières de dire le temps. Il y a chronos, qui est le temps des hommes, et kéros, qui est le temps des dieux. Et je pense que le temps des vignerons, il est un peu entre les deux.
On passe beaucoup de temps à table en Géorgie et à boire.
C'est intéressant, Vladimir, que vous parlez de Moukrani, parce que Moukrani se trouve être de... quelque part vendu par Nicolas, où nous sommes. Exactement. Alors j'ai cherché Moukrani sur le site internet de Nicolas, en vain. Il n'y a même pas la Géorgie sur les... apparemment, ils ont du Moukrani.
Est-ce qu'ils sont sympas, les Géorgiens ?
Ils sont très chaleureux, très sympas.
Est-ce qu'elles sont jolies, les Géorgiennes ?
Alors, certains sont très jolis, ça dépend. Comme
vous avez la plus jolie sur cette question.
En tout cas, ils sont très chaleureux, assez latins, je dirais. Alors, on connaît... En France, la capacité sportive des Géorgiens, notamment en rugby, c'est plutôt en première ligne que derrière.
Il y a peu de poètes, il y a peu de poésie.
Gorgodzi, c'est pas... Voilà,
mais efficace.
Efficace. Alors, donc, cette région de Kakheti dont on parlait, qui n'est pas la région de Moukrani, parce que Moukrani, c'est à 35 km au sud de Tbilissi, qui fait effectivement de grands vins et qui appartenait à la famille royale de Géorgie. D'ailleurs, le premier roi de Géorgie, qui s'appelait David,
décidément, encore en anglais,
a donné ce domaine à son frère, donc c'est un domaine très, très réputé et très ancien. Mais la Kakheti est intéressante. Alors, parlons deux mots des vins qui sont produits dans cette région, qui étaient sous l'Empire. Le domaine que j'ai visité s'appelait sous l'ère soviétique, centre de production numéro 2. C'est donné un peu le truc.
Et un parfum numéro 2 aussi.
Produisait du vin blanc, sucré, avec une voie ferrée qui rentrait dans la propriété, on remplissait les citernes, ça partait à Leningrad et à Moscou. Aujourd'hui, ça a complètement retourné. Après une période sous Pernod Ricard, c'est maintenant, ça appartient aux mêmes propriétaires que Moukrané. 30% de leur vignoble est en bio, et tout le reste est élaboré. Et les vins sont remarquables. Ça s'appelle GWS, Georgian Wine and Spirits. C'est pas très sexy comme nom, mais ils produisent des vins qui vont, à mon avis, émerger.
Merci
dans
beaucoup. C'était d'ici, c'était David Cobold.
Et puis on garde cette tradition. J'en parlerai une prochaine fois de cette
avec
tradition
plaisir.
De cuivrerie qui est intéressant, les vins en amphore, qui est marginal, mais
classé au patrimoine de l'UNESCO.
Merci David, vous changez rien, vous êtes parfait. Fin de ce numéro 603 d'Invino BFM. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de BFM Business. On se retrouve en public et délocalisé au bar à vin restaurant Nicolas à Paris. Samedi à 13h, dimanche à 16h. D'ici là, bonne suite au week-end sur BFM Business et surtout, n'oubliez jamais, respectez la plus grande des modérations.